9h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, l'Amérique et vous avec Timothée Donangmaï en direct. Il parlera de la dernière déclaration du président Obama par rapport à ISIL au Proche-Orient. Mais tout de suite, un bulletin d'information. L'armée du Nigeria indique avoir infligé aujourd'hui un réveil à des combattants de Boko Haram, non loin de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Abuja dit avoir envoyé des renforts pour sécuriser la ville. Le porte-parole du gouvernement Mike Oweri est formel. Les assaillants ont été repoussés et l'armée a fait des victimes de leur côté, a-t-il déclaré. Mais il n'y a aucune confirmation de source indépendante. Les islamistes de Boko Haram avaient encerclé la ville de Maiduguri et des combats acharnés les opposaient depuis ce matin aux forces gouvernementales. Épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la directrice générale de l'OMS estime que des renforts en personnel de santé qualifié sont nécessaires pour faire face à la situation. En attendant, le bilan continue de s'alourdir. Lola Akomasri.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué plus de 2400 personnes sur 4784 cas, a fait savoir aujourd'hui la directrice de l'OMS, Margaret Chan. Le plus grand obstacle reste le manque de personnel qualifié, a-t-elle souligné.
Money, materials are important, but those alone could not.
L'argent et le matériel sont importants, mais à eux seuls ne peuvent pas arrêter la propagation de l'Ebola. Les ressources humaines sont le plus important, en particulier le besoin en médecins et infirmiers compatissants qui sauront conforter les patients, a expliqué la patronne de l'OMS aujourd'hui à Genève, en se félicitant de la décision de Cuba d'envoyer 165 professionnels de la santé en Afrique de l'Ouest. Les centres de contrôle des maladies infectieuses des États-Unis ont aussi envoyé des spécialistes et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, sollicite des volontaires pour l'Afrique de l'Ouest sur son site Internet. Le médecin américain Rick Sacra, traité aux États-Unis, va beaucoup mieux selon sa famille. Une remarquable amélioration qui pourrait être due à 2 transfusions de plasma sanguin provenant d'un de ses collègues, le docteur Quint Brantley, désormais guéri de l'infection.
En République centrafricaine, au moins 30 personnes ont été tuées hier dans un accident de circulation à l'entrée de Boali, à 95 km au nord-ouest de Bangui. Plusieurs blessés graves sont évacués dans la capitale. Par ailleurs, des mouvements inhabituels des ex-Seleka ce jeudi à Bambari ont inquiété les habitants. Les États-Unis ont annoncé la réouverture de leur ambassade après une absence de près de 2 ans à Bangui. Dans une lettre au Congrès jeudi, le président Barack Obama a déclaré que 20 soldats américains sont arrivés pour établir un périmètre de sécurité à l'ambassade à Bangui. Cette décision intervient alors que les Nations Unies commencent une nouvelle mission de maintien de la paix dans le pays. Condamnation du député Jean-Bertrand Ewanga en République démocratique du Congo, figure de l'opposition et secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Il écope d'un an de prison ferme pour outrage au chef de l'État, aux membres du gouvernement et aux membres du Parlement. La sentence est tombée hier à moins de 48 heures d'une manifestation contre Joseph Kabila. Et le Sud-Africain Oscar Pistorius, disculpé des accusations de meurtre, a lui été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir tué sa compagne Riva Steenkamp.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 500 millions de dollars d'aide supplémentaire des États-Unis aux personnes touchées par la guerre civile en Syrie. Sarah Diaby.
L'annonce a été faite aujourd'hui par M. Kerry en Turquie. Plus de 250 millions de dollars du programme seront décaissés pour aider les 3 millions de réfugiés syriens qui ont fui vers les pays voisins, notamment la Jordanie, la Turquie, l'Irak, le Liban et l'Égypte. Une grande partie de l'enveloppe sera consacrée aux civils déplacés à l'intérieur de la Syrie. M. Kerry est en voyage d'une semaine pour aider à former une coalition mondiale contre les extrémistes de l'État islamique en Syrie et en Irak. Lors des pourparlers tenus jeudi en Arabie Saoudite, la Turquie a refusé d'approuver un plan d'ensemble présenté cette semaine par le président Barack Obama contre le groupe militant sunnite. Mais 10 pays arabes se sont joints à la coalition promettant d'aider les États-Unis à détruire l'État islamique où qu'il soit.
En Israël, des dizaines de soldats de réserve d'une prestigieuse unité de renseignement ont envoyé une lettre au gouvernement pour annoncer leur refus d'endosser l'uniforme parce qu'ils sont tenu de mettre sous surveillance de millions de Palestiniens. Au Pakistan, les autorités annoncent l'arrestation de 10 militants soupçonnés d'implication dans la tentative d'assassinat de Malala Yousafzai en 2012. L'adolescente qui a survécu à ses blessures par balle est devenue depuis une icône internationale de la paix et du droit à l'éducation des enfants. Et puis, on termine en Tunisie. Violence à 12 dans le sud du pays. Pour la deuxième nuit consécutive, des heurts ont opposé des policiers à des manifestants protestants contre l'arrestation d'un militant islamiste. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur, faisant état de 26 interpellations. Les manifestants ont notamment bloqué des routes en incendiant des pneus, jeté des pierres sur les policiers qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes, selon la radio tunisienne Mosaïque FM. Vous écoutez la voix de l'Amérique. Place maintenant à l'Amérique et vous en direct. Et c'est avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'Amérique et vous, votre fenêtre sur la vie ici aux États-Unis. Timothée Donangmaï en votre compagnie, heureux de vous retrouver dans cette émission après quelques semaines d'absence. C'est l'occasion pour moi de faire un coucou amical à tous les parents et amis que j'ai récemment rencontrés au cours d'un grand périple qui nous a conduit, ma famille et moi, de N'Djamena au Tchad jusqu'à Boya et Limbé dans le sud-ouest du Cameroun. Un grand merci à tous. Cette édition de l'Amérique et vous est consacrée au plan en quatre points du président Barack Obama pour éradiquer les djihadistes de l'État islamique. Un sujet qui, vous vous en doutez, a suscité de nombreuses réactions sur notre page Facebook. Et comme d'habitude, vous pouvez intervenir en direct en appelant au 001, le code des États-Unis, 202-619-3140, 001 pour les États-Unis, 202-619-3140. Notre invité ce soir, le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, Timothée.
Alors, professeur, le président Barack Obama a prononcé cette semaine son important discours dans lequel il a présenté un plan en quatre points pour mobiliser une large coalition internationale et défaire les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plan? Quel est le principal axe de ce plan?
Alors, c'est un plan très important, un discours très important qu'il a prononcé. Et la chose la plus importante, à mon avis, c'est le changement des projets du président Obama. Car il croyait, il disait que la guerre contre le terrorisme était plus ou moins terminée. Et maintenant, il va changer, étant donné les changements des conditions au Moyen-Orient. Donc, il a prononcé ce discours. Je crois qu'il a le soutien des deux partis politiques pour le moment. Et on va voir, mais quand même, un discours est une chose et les réponses sont différentes.
Alors, professeur, vous l'avez dit, au plan politique, les hommes politiques, donc américains, les hommes et femmes politiques des États-Unis sont d'accord avec le président qu'il faut agir contre l'État islamique, mais ils sont plutôt divisés quant à la manière de procéder. Certains pensent que le président a besoin d'un feu vert du Congrès, d'autres pensent qu'il peut le faire de façon unilatérale.
Oui, on ne sait pas exactement s'il aura besoin de... formel du soutien du Congrès. Et il n'a pas encore demandé de soutien, c'est-à-dire officiellement. Donc, c'est ambigu pour le moment. Il dit, le président, qu'il a l'autorité de continuer, mais quand même, il disait qu'il voulait quand même un soutien du Congrès informel, si vous voulez. Donc, cet aspect du plan n'est pas clair pour le moment.
Et c'est une démarche, vous l'avez souligné, qui n'est pas facile pour le président Barack Obama, puisque certains font remarquer que le président Obama est arrivé au pouvoir avec la promesse de mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan et pense qu'aujourd'hui, il s'apprête à engager les États-Unis dans une autre guerre.
Oui, alors c'est difficile pour lui, mais il y a des changements dans les conditions. Et quand même, c'était maintenant, pour le moment, c'était politiquement plus ou moins nécessaire, même si on ne considère pas ses promesses. C'est qu'il a perdu un peu le soutien de l'opinion publique aux États-Unis à cause de ses positions dans les affaires internationales. Et sa popularité a chuté énormément. Les gens commençaient à perdre de confiance. Donc, même sur le plan politique, il devait faire quelque chose. Il n'avait pas vraiment de choix. Et comme je disais, il a perdu énormément de soutien pendant les derniers cinq mois. Et donc, c'était un peu nécessaire à la fois sur le plan politique et sur le plan des affaires internationales.
Et certains estiment que le vent s'est tourné en faveur du président dans ce débat lorsque les Américains ont vu sur Internet les militants de l'État islamique décapiter deux journalistes américains.
Alors, c'était ça un peu, oui. C'était certainement la télévision, les décapitations. Mais même avant ça, là, il a commencé à perdre le soutien. La montée du pouvoir de l'État islamique, quand l'État islamique a menacé même Bagdad. Alors, c'était un problème. Donc, depuis un an, je peux dire, depuis la crise en Syrie, il a commencé à perdre de confiance. Et maintenant, alors, on va voir ce qui est arrivé. Mais pour le moment, je crois que sa position a stabilisé un peu son soutien, car, comme je disais, l'opinion publique est pour, en principe, l'action et les deux partis politiques, la majorité des deux partis politiques au moins, sont en faveur d'action. Mais alors, on peut parler en principe d'action, mais quand on commence vraiment à mettre en place une stratégie, c'est quelque chose de différent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est un plan logique? Là, je ne sais pas, c'est ambigu.
Voilà, merci professeur Cizer. Nous allons passer à nos auditeurs, en commençant par notre ami Ibrahima Issa Diallo, qui nous appelle de Guinée. Bonsoir Ibrahima.
Oui, bonsoir Timothée, comment allez-vous?
Oui, ça va très bien, et vous-même?
Ça va, grâce à Dieu, ça va.
Voilà, allez-y.
Je voudrais poser une question par rapport à la situation au Nigeria. Nous avons vu ces derniers temps-là, le président Obama est presque... la plupart des présidents de l'Europe qui se sont donné la main et une meilleure force pour aller combattre l'OSI, comment dire, au niveau du Moyen-Orient. Mais cependant, nous constatons en Afrique ici, et précisément au Nigeria, la montée en force de Boko Haram. Et Boko Haram, qui était un petit groupe et qui agissait juste pour prendre des otages et autres, là, maintenant, là, Boko Haram est en train de chercher à récupérer du terrain. Maintenant, qu'est-ce que le président Obama envisage faire par rapport à ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller combattre l'OIL au niveau du Moyen-Orient et cependant laisser un autre groupe terroriste qui est en train de gagner du terrain dans un autre pays. Parce que là, il faut reconnaître que les États africains n'ont pas assez de moyens pour combattre la force islamiste.
Boko Haram, merci Ibrahima, professeur Cizer.
Oui, alors le sens de la question était Boko Haram, est-ce que c'est plus important pour les États-Unis? Non, j'ai pas entendu toute la question.
Oui, notre auditeur veut savoir pourquoi les États-Unis, le président Obama mobilise une large coalition internationale pour aller combattre l'État islamique au Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire pour Boko Haram, qui est aussi en train de monter en puissance au Nigeria?
Oui, alors, c'est une question intéressante et importante. Je dirais que d'abord, il s'agit de l'importance pour les intérêts américains au Moyen-Orient. Ils sont plus ou moins plus importants que en Afrique. Malheureusement, c'est le cas aussi. Le fait que c'était l'Irak où nous avons mené une guerre, c'est une autre chose, mais l'intérêt des États-Unis est très important dans ces pays-là. Et l'idée qu'on pouvait perdre Bagdad, c'était impossible après la guerre qu'on a menée. finalement, je dirais l'autre chose, comme le président a dit, on ne peut pas tout faire. Il faut choisir où et quand. Et pour le moment, me semble-t-il, l'État islamique est plus dangereux pour l'Ouest en général, étant donné l'armée qui a formé, qui possède beaucoup d'Américains et des Européens. Donc, la menace pour les États-Unis et pour l'Europe vient plus de l'armée islamique que de ce qui est arrivé en Afrique.
À propos du Moyen-Orient, professeur, notre ami Charles Legrand du Bénin veut savoir comment l'Amérique compte récupérer tout ce qu'elle a investi dans cette affaire, dans les guerres du Moyen-Orient.
Oui, alors, c'est un peu le cas aussi. Imaginez-vous de perdre tout ce qu'on a fait pendant la guerre en Irak. C'est un aspect du problème. Mais l'autre aspect, c'est aussi la Syrie et les autres pays arabes. Donc, il y a des pressions des autres pays arabes, les sunnites, pour aider l'Irak contre cette armée islamique. Donc, c'est une espèce de coalition qui a formé, même si les pays arabes n'ont pas encore vraiment, ne font pas vraiment partie de cette coalition. Ils veulent que les États-Unis aident l'Irak contre ces extrémistes qui menacent plutôt les autres pays sunnites. Donc, je parle de la Jordanie, je parle de l'Arabie saoudite, des autres pays-là, ils ont tort vraiment de ce mouvement. Et ça change complètement le Moyen-Orient, parce qu'on peut dire, est-ce que la guerre en Israël, ce n'est pas très important pour les pays arabes, ils n'ont dit pratiquement rien contre l'Israël. Le problème maintenant est l'extrémisme des sunnites.
Voilà, très bien, merci professeur, l'Amérique et vous. Nous allons vous retrouver après cette pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous consacrez ce soir au plan du président Barack Obama pour éradiquer les djihadistes de l'État islamique. Et comme d'habitude, vos interventions en direct au 001, le code des États-Unis, 202-619-3140. C'est le numéro de ce studio 13. Avec nous au téléphone, le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville. Nous allons maintenant prendre notre ami Omega Akpo du Bénin. Bonsoir Omega.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà, allez-y.
Oui. Moi, ma question, ce que je suis en train de dire, c'est pertinent, mais le professeur n'a pas pris de voix répondre à ça. Je dis, l'État islamique, ça a commencé doucement depuis la chute de Saddam Hussein. On est d'accord. Les Américains n'avaient pas cru devoir les neutraliser très tôt. Ils ont sous-estimé ça. Et ça a commencé jusqu'à atteindre maintenant un niveau qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'est la même chose que Boko Haram. Et vous convenez avec moi que ces islamistes sont en réseautage. Ils sont en réseau. Et tous proclament un califat. Si on laisse aussi Boko Haram, bientôt on aura encore une coalition. On va encore dire qu'on veut venir intervenir. Pourquoi ne pas intervenir au même moment?
Merci, merci Omega. Alors, professeur Caesar, notre ami dit que les groupes extrémistes sont connectés, sont en réseau et que d'ici là, le temps qu'on y prenne garde, le Boko Haram pourrait se transformer et constituer une menace planétaire.
Vous avez raison. En fait, ça va être, si vous voulez, une lutte qui va continuer. Il y a des liens contre tous ces groupes et même si on met mais l'accent maintenant sur l'État islamique au Moyen-Orient, le problème vraiment est un problème mondial et ça va prendre du temps. J'imagine que cette lutte va continuer pendant des années, peut-être pendant 30 ans, je ne sais pas. La guerre froide a duré longtemps. Alors, ça fait partie d'un changement dans le monde et on verra si ces groupes vont continuer à croître ou dans l'avenir, s'ils vont perdre de plus en plus de soutien. On ne sait plus. Mais c'est vrai, votre auditeur a dit, que le problème n'est pas seulement au Moyen-Orient, il est en Afrique aussi.
Et cela dit, professeur, les États-Unis n'ont peut-être pas investi les mêmes ressources au niveau du Nigeria qu'ils sont en train de le faire au Moyen-Orient, mais ils ont quand même apporté divers appuis au gouvernement nigérian.
Oui, ils ont un peu de soutien, mais le problème est vu différent d'après des Américains pour le moment. On verra si la menace en Afrique va croître, les opinions peuvent changer. Mais c'est ce qu'on voit maintenant que, contrairement peut-être à ce que le président a dit et les autres ont dit, que la guerre contre le terrorisme est terminée. Ce n'est pas vrai, ça va continuer, on ne sait combien de temps ça va durer, mais c'est un nouvel aspect d'une guerre qui va continuer à l'avenir.
Merci à notre ami Omega Akpo. Maintenant, la parole à Thierry Mukele-Kele. Non, nous avons perdu Thierry Mukele-Kele. Alors, nous avons notre ami excellent Silla qui dit « Le président Obama pourra avoir la paix du cœur s'il s'engage à combattre les groupes terroristes, mais combattre les islamistes, c'est autre chose. » Et notre ami Daniel Bimbadi qui dit « C'est une bonne idée, mais dans quel état ils trouveront ces terroristes ? Est-ce que ce n'est pas qu'à côté du peuple pour mettre encore le monde en crise ?» Et notre ami Bimbadi dit que le président Obama doit être sage et bien réfléchir avec les pays où évolue enfin, avec les pays de la région où évoluent ces rebelles. Alors, professeur Siza, vous avez parlé de la grande coalition que se propose de former le président Obama contre l'État islamique. On a vu que certains pays ont déjà décliné cette offre, comme la Grande-Bretagne qui a dit qu'elle ne peut pas prendre part à l'opération. Il y a également la Turquie qui dit qu'elle ne peut pas faire partie de cette coalition.
Oui, c'est étrange. Le président a parlé d'une coalition, mais la coalition n'a pas encore formé, vraiment. Peut-être qu'il devait prononcer son discours avant de former la coalition. Mais pour le moment, la coalition est peu. C'est pas impressionnant. On va voir s'il peut arriver à former cette coalition dans les semaines qui viennent. Ça va être important à la fois sur le plan symbolique, mais aussi très important pour lui, le président lui-même, car il ne peut pas agir seul. Même plus que président Bush, qui l'a critiqué en disant que cette coalition qui a formé pendant la deuxième guerre en Irak, il a dit que ce n'était pas une vraie coalition, il n'avait pas suffisamment de partenaires, etc. Donc pour lui, l'idée d'une coalition est très importante. Et on verra. C'est vrai que les gens ont perdu de confiance en Obama. Et c'est peut-être pour cela qu'ils attendent. Ils n'ont pas suffisamment de confiance. Est-ce qu'il va vraiment poursuivre le président? Est-ce qu'il va vraiment persister? Je crois que les autres hésitent parce qu'ils n'ont pas assez de confiance pour le moment. Mais peut-être que ça va changer.
Voilà, on me signale que nous avons notre ami Thierry Mukele-Kele. Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, allez-y Thierry.
Oui, moi j'ai parlé du déficit communicationnel qui a créé finalement tout ce qui commence à se passer dans le monde. Nous accusons un peu les grandes puissances. C'est en rapport avec la manière dont les grandes puissances sont en train de traiter les problèmes en Afrique. Ce qui veut dire que chez nous, les grandes puissances n'ont pas des gens qui leur donnent les informations en temps réel. Et c'est par là que le déficit communicationnel intervient. Ce qui veut dire les ONG qui sont utilisées par les firmes des grandes puissances ne sont pas sur terrain et ne donnent pas ou ne reflètent pas la réalité des terrains.
Merci
quand
Thierry.
On parle...
Oui, merci Thierry. Professeur Cizer, notre ami dit que finalement les grandes puissances n'ont pas des informations fiables par rapport à diverses situations en Afrique.
Oui, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. C'est vrai que la presse ne parle pas vraiment beaucoup de l'Afrique aux États-Unis, un peu oui. Je ne sais pas si c'est le cas partout. J'ai l'impression, par exemple, que la presse française parle beaucoup de l'Afrique. Et c'est vrai aussi que d'autres pays, par exemple la Chine, deviennent de plus en plus intéressés par l'Afrique. Mais en large, en général, c'est vrai qu'il n'y a plus d'attention qui est mise sur le Moyen-Orient ou l'Europe ou l'Asie que l'Afrique. Ça, c'est vrai. Surtout l'Afrique centrale. On parle beaucoup de pays comme le Maroc et l'Algérie, c'est-à-dire l'Afrique nord, mais pas vraiment autant dans les autres zones de l'Afrique.
Notre ami Willy Niati est au téléphone. Bonsoir, Willy.
Bonsoir.
Voilà, allez-y, Willy.
Allô. Oui, juste mon intervention était l'intervention du président Obama à l'extérieur des États-Unis. Alors, ma question est que, est-ce que croyez-vous que l'intervention des États-Unis par rapport aux terroristes islamiques, est-ce qu'on va terminer ces actes-là qui sont, n'est-ce pas, nuisibles aux populations mondiales qui souffrent, si nous prenons le cas du Mali, le cas de l'Afrique de l'Est, et ainsi de suite. Et ma question est que toutes ces interventions que le président Obama va faire, croyez-vous que le terrorisme va terminer dans le monde entier?
Voilà, merci Willy. Professeur Cizer, est-ce que ces interventions vont pouvoir éliminer les terroristes qui mettent le monde à feu et à sang? Ça, personne ne peut donner réponse, professeur.
Ah oui, alors c'est la question. Éliminer, c'est peut-être trop. C'est difficile d'éliminer tous les terroristes. C'est une question, à mon avis, à contrôler, à dégrader, à réduire la menace, mais éliminer, c'est pas une question seulement militaire. Ça, je peux vous dire sans doute, c'est plus difficile que ça.
Alors, professeur,
nous avons des terroristes chez nous,
oui.
Aux États-Unis.
Oui, professeur, une question que tout le monde se pose. Comment frapper l'État islamique en Syrie sans indirectement aider le régime du président Assad?
Alors, c'est vrai que le président Obama ne veut pas être la force aérienne pour le président Assad. Quand même, ce sera peut-être un choix entre deux morts. C'est vrai que dans son discours, Obama n'a pas dit qu'il va aider le président Assad. Ça, c'est impossible à dire. Quand même, il dit qu'il aurait le soutien de l'armée ou les rebelles dits modérés qui ont opposé Assad. Et on va donner de l'assistance à ces gens-là. Ça va prendre du temps. On a parlé de ça il y a 2 ans. Le président Obama ne l'a pas fait. Il va commencer avec des camps d'entraînement pour entraîner un peu ses troupes. Moi, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. C'est peut-être vrai qu'objectivement, pour le moment, en essayant de détruire l'État islamique, il aide un peu le président Assad, même s'il ne peut pas le dire.
Voilà, nous avons notre ami Dieudonné Sodabi qui dit « Bonjour, la Voix de l'Amérique ». Je remercie beaucoup le président Obama pour cette initiative noble et salvatrice, mais le constat est que depuis des années, ces groupes islamistes ne font que semer la panique dans le monde et ils paraissent invincibles. Voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous. Merci à notre invité, le professeur Jim Cizer de Charlottesville. Merci à tous nos auditeurs. Vos réactions et commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est Jean-Roger Bion qui sera là pour l'Amérique et vous. Bonsoir.